Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h01 sur Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au sommaire ce soir, comment vont les agriculteurs? Près de 20% d'entre eux ont plébiscité Jordan Bardella aux élections européennes, alors que les zones rurales sont les cibles principales du Rassemblement National. Pour démêler tout ça, on discute avec Alain Guifès, co-porte-parole de la Confédération Paysanne du Maine-et-Loire. On aura également le flash info de Victor, ainsi que la chronique européenne de Camille. Allez, c'est parti, ajustez bien votre gilet de sauvetage. Le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Victor.
Salut Hugo, salut à tous.
Tu vas bien ?
Ça va super et toi ?
Eh ben écoute, pas mal du tout hein, dans la régie, on est bien à l'abri, on est au sec. Dans le flash info ce soir, la Thaïlande est devenue aujourd'hui le premier pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est à adopter le mariage pour tous.
Ce jour est historique pour la population thaïlandaise. Le Sénat a très largement voté en faveur de ce projet de loi. Un moment historique célébré comme une victoire pour la communauté LGBT. Désormais, les couples de même sexe pourront bénéficier d'une reconnaissance juridique et des droits équivalents à ceux d'un mariage entre un homme et une femme. La Thaïlande devient donc la 37e nation mondiale à autoriser les couples de même sexe à se marier.
La philosophie, c'était ce matin, ça a ouvert le bal des épreuves du bac pour les voies générales et technologiques.
La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? L'État nous doit-il quelque chose? Voici deux des quelques sujets de philosophie auxquels devaient répondre les lycéens ce matin dès 8h. Une première étape avant d'enchaîner les épreuves de spécialité en fin de semaine. Cette année, le diplôme repose à 40% sur le contrôle continu et 60% sur les épreuves de fin d'année. A noter que les élèves d'études professionnelles ont déjà commencé leurs épreuves fin mai début juin.
À quelques jours du début des élections législatives, Jordan Bardella tente une opération séduction plus que maladroite auprès des femmes.
Dans une vidéo publiée hier sur Twitter, l'homme politique a notamment garanti la liberté de s'habiller comme on l'entend, ainsi que le droit fondamental de disposer de son corps, s'il était un jour Premier ministre. Une prise de parole qui a insurgé de nombreuses femmes quand on sait qu'il a soutenu Marine Le Pen pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse au sein de la Constitution. Une intervention critiquée par de nombreuses associations féministes qu'elles considèrent comme la récupération politique de bas étage.
Les députés devront-ils voter pour choisir le Premier ministre en cas de victoire de la gauche?
C'est ce qu'a proposé Olivier Faure, le président du Parti Socialiste. Si le nouveau Front Populaire parvenait à gagner les élections législatives, les députés nouvellement élus devraient donc choisir leur Premier ministre par un vote. Sur France 2, l'homme politique a justifié sa décision en expliquant que la seule manière de faire fonctionner cette nouvelle majorité, ce sera d'avoir un fonctionnement démocratique.
À Angers, une rame de tram a été entièrement décorée dans le cadre de la 9e édition saison d'Échappée d'art.
Une rame de tramway dictée par le passé de la ville, c'est l'idée de l'artiste italienne Giada Gassani. Pour ce faire, elle s'est inspirée de l'héritage historique de la ville à partir de la période médiévale, tout en ajoutant des traits un peu plus futuristes. Pour elle, les personnages présents dans ses œuvres sont liés par un tracé. Ici, les quartiers de la ville sont reliés par la trajectoire du tramway.
Et le verdict est tombé pour le capitaine de l'équipe de France de football.
Après avoir heurté son nez sur l'épaule de Kevin Danseau lors d'un duel aérien, Kylian Mbappé est sorti en sang hier soir face à l'Autriche. Le joueur se serait fait remettre le nez dans le vestiaire après la rencontre. Le staff n'a pas souhaité prendre de risques avec le capitaine. Il sera donc forfait vendredi prochain pour la deuxième confrontation en phase de poule contre les Pays-Bas.
Victoire 1-0 de l'équipe de France hier contre l'Autriche, t'as regardé ?
J'ai regardé, c'était un match un peu chaotique.
Ouais, c'était chaotique, ils sont rugueux. Hein, les
Autrichiens sont très rugueux, effectivement.
Ah ouais, je m'y attendais pas trop. Bon, écoute, ça donne le ton pour la suite de la compétition. Merci beaucoup, Victor, et à demain pour un nouveau Flash Info.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
une semaine de chaos. Qui aurait pu imaginer que les élections européennes produisent un tel effet dans la politique nationale ? Camille, aujourd'hui, tu veux t'intéresser à une donnée particulière des résultats européens, les campagnes.
Les zones rurales ont été mises au cœur des débats pour les élections européennes. On a largement parlé de la crise agricole qui a touché l'Union européenne en début d'année. Depuis le début des années Macron, ce n'est pas la première fois que les campagnes sont au cœur des débats. Le mouvement Gilets jaunes mettait lui aussi en lumière les difficultés du monde rural à faire remonter ses plaintes et à avoir des actions concrètes pour lutter contre cet éloignement des politiques publiques. Au lendemain des élections, le journal Le Monde a publié une carte montrant la liste ayant recueilli le plus de votes dans toutes les villes et villages en France. Et cette carte, recouverte de marron pour le Rassemblement National, a bien montré que là où les partis républicains ont échoué, c'est bien dans les campagnes.
Et pourtant, les campagnes ne sont pas les premières cibles du programme du Rassemblement National. Ce n'est pas vraiment dans les Mauges, par exemple, que le risque de submersion migratoire est le plus fort, Camille.
Et c'est là qu'est la plus grande victoire du Rassemblement National dans ces élections européennes. Premièrement, ils ont réussi à mobiliser les campagnes sans avoir de base locale très forte. Aucune région n'est dirigée par une personne à l'étiquette RN, ni aucun département, et très peu de mairies ne portent réellement un programme Rassemblement National. Deuxièmement, ils ont réussi à devenir le vote utile pour voter contre la politique menée par Emmanuel Macron. Cela fait plus de 5 ans qu'Emmanuel Macron ne fait rien pour calmer la colère montante dans les campagnes. Les déserts médicaux sont de plus en plus vastes et toute personne vivant en campagne sait à quel point il est compliqué de trouver un médecin généraliste. Les agriculteurs subissent les normes environnementales et la perte de revenus sans que personne ne trouve d'alternative à leur fournir. De nombreuses écoles se retrouvent contraintes à fermer des classes et à augmenter le nombre d'élèves en doublant les niveaux. Et c'est ce délaissement que vivent les campagnes. Cependant, quelles grandes déceptions auront-ils quand ils comprendront que le Rassemblement National ne changera rien à ceci.
La gauche est largement présente à la tête de départements, de régions, de mairies. Alors pourquoi, Camille, les idées qu'elle porte n'ont pas réussi à atteindre leur cible ?
Tout simplement parce que la gauche ne cible plus les campagnes. Et pour étayer mon propos, je vais m'appuyer sur le livre de Rémi Branco. Il est socialiste, il est vice-président du conseil départemental du Lot, il a été porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Le livre s'appelle « Loin des villes, loin du cœur, la gauche veut-elle regagner les campagnes ?» Il dit notamment « À mesure que le Rassemblement National se normalise, c'est la gauche qui est diabolisée, devenant une élite qui impose un modèle de vie, des donneurs de leçons, qui depuis les métropoles expliquent comment il faut se loger, manger ou se déplacer. » Pour lui, les victoires électorales de la gauche doivent aussi et surtout passer par un retour aux campagnes. Après les erreurs faites durant le mandat de François Hollande avec les grandes régions, la perte de compétences des départements, la gauche doit s'attaquer aux problèmes du quotidien. Et c'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire le nouveau Front Populaire. Certaines mesures comme la gratuité réelle de l'école auront un impact certain sur l'opinion. Pour gagner les élections législatives, la gauche a déjà fait un grand pas avec ce programme commun. Il ne reste plus qu'à tenir ses grandes promesses.
Eh bien, écoute, merci beaucoup Camille pour cette analyse. Ça tombe bien, on en parle juste après une courte pause musicale avec le co-porte-parole de la Confédération paysanne du Maine-et-Loire. On va décrypter tout ça ensemble. Merci beaucoup Camille et à la semaine prochaine. On se laisse quelques instants en musique avec l'Aubienne de Parente de la Cruz sur les ondes de Radio Campus Angers. L'Aubienne.
L'Aubienne, l'Aubienne, l'Aubienne pour moi, l'Aubienne, l'Aubienne, miel. L'Aubienne pour moi demain.
L'Aubienne, l'Aubienne, l'Aubienne pour moi, l'Aubienne, l'Aubienne, miel. L'Aubienne pour moi demain. L'Aubienne, l'Aubienne, l'Aubienne pour moi, l'Aubienne, l'Aubienne, miel. L'Aubienne pour
Kem dan fon nou le bak pa pou koule
Loubyan
Ramoun la leve san lode a kafe
Loubyan pou mwa douman
Serpan ga leve dan kalbano wale
Loubyan miye Loubyan pou mwa douman Loubyan
tout le monde l'a dit doucement. Comme il a la vie là sans aide. Et la tout le monde l'a dit doucement. Et comme il a la vie là sans aide. Et son fait la terre là pour briller. Panga wado man.
Panga levé dans carbano wali amula levé sans l'eau des café c'est panga levé dans carbano wali amula levé sans l'eau des café c'est panga levé dans carbano wali amula levé sans l'eau des café c'est panga levé dans carbano wali amula levé sans l'eau des café c'est panga levé dans carbano
Salut, c'est Sarah de Twin Vertigo. On se rappelle de tous et toutes bien aller voter les 30 juin et 7 juillet prochains. C'est extrêmement important qu'on se mobilise ensemble pour conserver une vie culturelle, inclusive, respectueuse de la singularité de tous et toutes et garder ces libertés que des gens se sont battus pour nous faire vivre.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
Les élections législatives des 30 juin et 7 juillet approchent à grands pas et ce soir nous accueillons Alain Guifès de la Confédération Paysanne 49 dans le Pédalo. Bonsoir Alain Guifès.
Bonsoir.
Le 28 mai dernier, l'Institut National Polytechnique Agro-Toulouse et le groupe Réussir ont rendu publics les résultats d'un sondage sur les intentions de vote des agriculteurs aux prochaines élections européennes. Près de 20% des agriculteurs annonçaient vouloir voter pour Jordan Bardella et cela s'est à peu près confirmé dans les urnes. Ces chiffres donc se sont confirmés et si ce type de sondage n'a pour l'instant pas encore été publié pour les élections législatives, à l'heure où l'on se parle, le constat est unanime. Le vote RN se ruralise. Je suppose que vous avez vu cette carte toute marron publiée par Le Monde. Le marron qui est la couleur du Rassemblement National utilisé par le journal Le Monde. Comment expliquez-vous que les habitants des zones rurales plébiscitent le Rassemblement National, Alain Guifès ?
Alors les plébiscites, enfin, il y a eu quand même un bon taux d'abstention, donc ça veut dire que les majoritaires restent quand même tous les abstentionnistes.
Effectivement.
Donc c'est une forme de ras-le-bol aussi du système. Enfin, les gens ne veulent plus aller voter parce que plus rien ne correspond à leurs attentes. Donc effectivement, le Rassemblement National en a profité du coup. Parce qu'ils ont fait une campagne très éclatée dans les territoires et qu'ils ont été assez présents. Bon, le fameux ras-le-bol, les gens, ils en sont à dire, bah, pourquoi pas eux, voilà. Alors effectivement, dans le milieu paysan, on n'a pas eu le même taux. Enfin,
ouais, on va en parler voilà, juste après, justement. Alors, ce que ce sondage nous indique, c'est que seuls 20% des agriculteurs se disent favorables à Jordan Bardella, contre à peu près entre 31-33% des Françaises et des Français. Comment ça se fait, justement, alors que le vote rural ne correspond pas au vote des agriculteurs?
Déjà, dans le milieu agricole, je pense que cette tendance-là, elle existe déjà, sans parler des élections européennes. Je pense qu'il y a effectivement un pourcentage qui peut être celui-là, qui correspond à cette tendance-là de vote un peu réactionnaire, de droite extrême droite. Bon, voilà, c'est assez classique. Après, je pense que majoritairement, le milieu agricole est quand même intégré dans la société. Faut savoir que l'agriculture aujourd'hui bénéficie d'aides publiques. Donc, on est en relation avec la société. Enfin, on a des aides. Donc, on est aussi, entre guillemets, reconnaissant, même si des fois, elles tardent à tomber ou il y a des négociations ou elles sont mal réparties. Ceci dit, l'agriculture reste un milieu qui est en corrélation avec la société. Donc, effectivement, les agriculteurs en sont aussi, entre guillemets, assez reconnaissants. Connaissant en faisant un vote moins réactionnaire, quoi.
Comment analysez-vous les résultats de ce scrutin aux élections européennes face aux mobilisations énormes qui ont eu lieu en France, mais aussi un peu partout dans l'Europe l'hiver dernier?
Oui, j'appelle ça les manifestations des tracteurs, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de tracteurs qui étaient mobilisés. C'est vrai que c'était une convergence de ras-le-bol. Hein, il y a un petit côté gilet jaune, quelque part, aussi, où il y en a des premiers qui sortent, et puis d'autres suivent, et ça continue, et il y a eu un effet boule de neige dans une période où les travaux des champs n'étaient pas encore entamés, il y avait une disponibilité. Et du coup, effectivement, il y a une convergence de vues de tous les agriculteurs. Je pense que tout le monde était assez content que de se dire faut exprimer le ras-le-bol, les revenus, le libre-échange. Enfin, il y avait un point commun, il y avait des points communs. Ah, bon, après, effectivement, ça a été un petit peu récupéré par le syndicat majoritaire qui a su éteindre le feu un peu partout.
La FNSEA.
Donc, bon, on est habitué à ce genre de manœuvre. Hein. Voilà, c'est, faut pas...
Mais en tout cas, oui, vous, en tant que Confédération Paysanne, c'était important pour vous de se mobiliser à ce moment-là pour exprimer aussi un ras-le-bol aux côtés de la FNSEA et de Coordination Rurale, par exemple?
Nous, on a voulu mettre le focus vraiment sur le libre-échange et les revenus plafonnés, c'est-à-dire que les prix garantis, quoi. C'est-à-dire qu'on veut, on veut que les prix soient garantis, c'est-à-dire qu'il y a un effort de fait par les transformateurs et la grande distribution pour que d'emblée les agriculteurs soient reconnus dans leur métier par le revenu. Et ça, on n'a rien eu. Les négociations qui sont en train de se passer actuellement par rapport aux prochaines élections, les élections législatives, on sent que c'est pas forcément dans les tuyaux. Donc on est toujours sur ce type de revendication là. Et puis la deuxième revendication, c'était sur les arrêts de libre-échange. C'est-à-dire que l'agriculture, aujourd'hui, est négociée comme une marchandise quelconque. Et du coup, ça a une répercussion sur les productions dans nos territoires et donc, effectivement, sur nos revenus. Donc, nous, on est pour qu'on arrête tout accord du libre-échange aujourd'hui. Quoi.
Ce qui m'amène à la question suivante. Mmh. Quelle est la position de la Confédération paysanne lors des élections législatives à venir, les 30 juin et 7 juillet? Qui appelez-vous à voter? Est-ce que vous avez une prise de position politique claire?
La position politique, elle est très claire par rapport à l'extrême droite. La Confédération paysanne, aujourd'hui, déballe toute une argumentation contre le Rassemblement national par rapport à ses thèses. Et le Rassemblement national n'a jamais été trop au pouvoir, mais a réussi à démontrer le peu qu'ils étaient dans les arcanes du pouvoir, que leur vote ne correspondait pas au vote des agriculteurs, aux besoins des agriculteurs, sur l'accès au foncier, sur le libre-échange, sur les revenus garantis. Enfin, à chaque fois, ils ont botté aux touches.
Pourtant, Jordan Bardella, ils annoncent en ce moment un peu à tour de bras des mesures pour mettre en avant le bio et le localisme, comme ils disent. Mm-hmm. Il y a même un projet de loi dans les tiroirs qui s'appelle Mangeons français, qui a été annoncé par Jordan Bardella. C'est des choses qui pourraient en fait correspondre aussi aux besoins des agriculteurs.
Bon, oui, on n'a pas attendu le Rassemblement national pour qu'il y ait des initiatives très fortes de prise sur le plan économique par rapport au circuit court et par rapport à l'alimentation. Nous, à la Confédération paysanne, aujourd'hui, on défend plutôt un projet de sécurité sociale et alimentaire, la SSA. Donc le Rassemblement national n'est pas du tout porté là-dessus, quoi. L'idée, c'est qu'on crée une sécurité sociale, donc qu'on crée une caisse qui permette aux gens de se nourrir dignement, convenablement, avec des produits ciblés locaux. Donc, il y a tout un travail qui a été effectué par pas mal d'organisations et qui veut mettre ça en, en, en branle. Et bon, il faut que les politiques s'en saisissent, mais le Rassemblement national ne sera pas porteur là-dessus, quoi. Mmh. Ils ont une habitude tout le temps à renationaliser les débats. Enfin, donc nous, ce qu'on dit à la Confédération paysanne, on veut pas d'élite qui rejette, enfin, des êtres humains déjà. Ça, enfin, profiter de ces élections pour toujours remettre à plat le problème de l'immigration. Enfin, c'est n'importe quoi. Le milieu rural n'est pas un milieu excluant. Enfin, majoritairement, les gens qui vivent en milieu rural sont des gens accueillants, quoi.
Vous-même, vous vivez en milieu rural ?
Oui, moi je suis paysan, je produis du lait bio avec ma femme en grec, voilà, avec des salariés. On a une fromagerie, on fait du fromage.
Vous dites que la Confédération paysanne appelle clairement à voter contre le Rassemblement national. Est-ce que pour autant vous appelez à voter pour un parti ? Est-ce que pour vous, que ce soit les Républicains ou que ce soit Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, ou que ce soit le Front populaire, ça change quelque chose pour vous ?
Ben, on voit que de toute façon, avec Renaissance, bon, nous, les relations avec le ministre de l'Agriculture n'ont pas été du tout bonnes ces dernières années. Enfin, on a été quand même un peu ostracisés, voire criminalisés. On a été traités d'éco-terroristes sur les bassines à Sainte-Soline. Donc on voit très bien que non, de ce côté-là, on n'a plus grand-chose à traiter. Et effectivement, on trouve que le travail qui se fait au niveau du nouveau comment Front populaire, il y a des choses intéressantes qui se font. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y rallient, malgré les divergences qu'il peut y avoir à la base. Il y a un besoin de sursaut et il y a certainement quelque chose à faire de ce côté-là, oui.
Un des principaux enjeux de notre planète pour les années à venir sera évidemment l'alimentation. Mmh. Comment se nourrir sans un accès à l'eau équitable pour toutes et tous? Comment cultiver des sols appauvris par des années de culture intensive? Comment manger bien et local? Est-ce que vous trouvez des réponses à ces questions-là parmi les discours des femmes et des hommes politiques qui se sont présentés jusque-là en face de vous ?
Le discours, déjà, je vais être sur les méga-bassines, c'est une fausse solution, quoi. C'est une fausse bonne solution, quoi. Le mythe de dire qu'il y a tant d'eau qui part à la mer en plein hiver qu'il faut la conserver, c'est n'importe quoi, quoi. Effectivement, toute eau qui tombe sur nos sols, dans nos fermes, elle doit y rester, quoi. Mais elle doit y rester avec un environnement sain, elle doit y rester dans un humus qui compose le sol. Enfin, c'est des haies qui sont parsemées aussi dans le territoire, qui permettent à l'eau de rester. Enfin, ça oui. Mais faire des méga bassines artificielles pour alimenter une agriculture d'exportation, non, c'est pas ça.
Est-ce que vous trouvez des réponses à ces questions-là autour de l'accès à l'eau, des sols appauvris, comment manger bien et local, parmi les femmes et les hommes politiques qui se sont présentés en face de vous ?
Ben là, le programme, effectivement,
du Nouveau Front Populaire
nous semble, oui, assez intéressant. Oui. Enfin, je pense qu'ils ont travaillé certainement avec les antennes nationales de la Confédération paysanne. Oui, là-dessus, on signe.
Comment vont les jeunes agriculteurs, Alain Griffès ?
Les jeunes agriculteurs, ils ne sont pas assez nombreux. Il y a un cataclysme qui va nous tomber dessus dans les 10 prochaines années, et j'en fais partie, parce que il y a plus de 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Donc c'est une chute annoncée, et que visiblement les politiques ne prennent pas au sérieux. Il y a un réel, ou alors ils s'y attendent et puis ça les arrange bien, et que finalement le paysage va complètement être transformé et qu'il y aura des agrandissements à outrance et on va aller dans la start-up nation agricole avec robotique, numérique et génétique, voilà. Non, ce qu'il faut demain et ce qu'il fallait jusqu'à aujourd'hui, et que ça a pas été tenu, c'est, il faut des paysans, donc il faut un renouvellement, il faut des jeunes. Alors là, je suis dans une radio d'étudiants qui sont peut-être pas voués à devenir paysans, mais pourquoi pas, toutes les portes sont grandes ouvertes.
Ce sont les jeunes agriculteurs qui ont le plus tendance à se tourner vers le Rassemblement national.
Oui, alors faut faire attention à ce genre de chiffres, parce que effectivement il y a des jeunes partout. Enfin, les jeunes en général, c'est pas une généralité, donc il y a des jeunes différents. Les jeunes, ils font aussi ce qu'ils veulent. Il y a des jeunes qui ne votent pas, il y a des jeunes qui votent donc le prochain Front populaire, le nouveau Front populaire. Il y a des jeunes partout. Les jeunes agriculteurs, je pense qu'ils sont aussi redevables de la société. Enfin, quand ils s'installent, ils ont des dettes publiques, donc je pense qu'ils sont aussi, ils ont une conscience aussi de ce qu'ils de ce qui leur revient, et donc en retour...
Pourtant, donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre les chiffres annoncés des jeunes agriculteurs qui se positionnent en faveur du Rassemblement National. Est-ce que vous êtes en train de vivre, vous, au quotidien?
Ah oui, il y a pas... Moi, j'ai autour de moi... Alors effectivement, on n'arrive pas à savoir qui a voté quoi. Bon, dans les sondages, peut-être que les gens, ils arrivent à se confier. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment une thèse à approfondir tant que ça. Enfin, y a aussi des jeunes qui votent partout ailleurs. Il y a aussi des jeunes qui ne sont pas comptabilisés et qui sont agriculteurs, qui sont installés sans aide publique, par exemple. Donc ces jeunes-là aussi, ils ont une façon de voir les choses qui peut être différente. Non, je pense que c'est vrai qu'on a tendance à stéréotyper un petit peu les choses au regard des résultats et à essayer de classer les gens un peu partout. Je pense que le milieu paysan, dans sa globalité, après il y a toujours une tranche qui est un peu plus radicalisée, mais je pense que c'est des gens qui ont de la réflexion, qui évoluent avec le temps, enfin qui sont aussi... dans la société, comme tout le monde, quoi.
Qu'est-ce que vous dites à vos collègues, aux autres agriculteurs, aux autres paysans qui, eux, ont décidé de voter Rassemblement National?
Ah bah déjà, ils me le disent pas ouvertement. Bon, peut-être qu'on peut s'en
Ils vous écoutent, là, c'est sûr. Ils sont parmi millions d'auditeurs et auditrices.
Non, ce que je leur dis, moi, quand je les rencontre, effectivement, si on a l'occasion de parler politique, je leur dis que non, c'est un vote qui est... Enfin, c'est un vote de colère, c'est pas un vote constructif, c'est pas un vote qui va permettre de faire évoluer le milieu dans lequel on vit, quoi. Ça, c'est clair. Donc après, ce que je dois dire ici à la radio, effectivement, non, faut penser à autre chose. Et je pense que dans le milieu dans lequel on vit, en milieu rural, on a aussi besoin d'être ensemble, quoi, de se rassembler, de réunir. Enfin, on a pas mal de contraintes sociologiques, enfin de territoires, de kilomètres et de déplacements. Donc on vit un petit peu dans la même situation tous, quelles que soient nos orientations politiques. On se respecte, mais bon. C'est vrai que si les gens pouvaient éviter de voter pour ça...
Bon, à noter que quand un amendement a été proposé à l'Assemblée nationale pour soutenir la filière bio en période de crise a été proposé, ouais. Le groupe Rassemblement à l'Assemblée nationale s'est abstenu et n'est pas allé dans le sens des agriculteurs.
Non, et puis il y a une ribambelle de textes comme ça qu'on peut énumérer au niveau de l'Assemblée nationale et puis aussi au niveau européen, Jordan Bardella qui était député. Bon, à temps partiel, on va dire, n'a pas suivi, quoi.
Dans le contrat de législature qui nous a été envoyé par le Front Populaire et disponible évidemment partout sur Internet, il propose de renégocier la PAC à l'échelle européenne. La PAC, la politique agricole commune, hein, c'est revenu pour le monde agricole de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire renégocier la PAC? Que veulent-ils renégocier? Et est-ce que renégocier la PAC, ça va dans le sens de l'agriculture durable et consciente des enjeux environnementaux?
Il faut savoir que tous les ans en France, il y a 9 milliards d'aides publiques par la fameuse politique agricole commune qui retombent dans les exploitations agricoles. Et il faut savoir que ces aides-là ne sont pas plafonnées. Donc plus on a de surface, plus on touche d'aide publique. Et ça, c'est vraiment le socle qu'il faut démonter dans la politique agricole commune. Donc ça, c'est vraiment si le Front Populaire prend le pouvoir, je pense que c'est la première chose qu'ils vont remettre en cause au niveau européen. Et en imaginant des aides plafonnées, ça veut dire qu'on les redistribue sur des projets beaucoup plus diffus, beaucoup plus pertinents sur les territoires. Et on peut aussi diffuser ces aides publiques en valorisant les haies, en valorisant la circulation de l'eau, enfin en valorisant une agriculture qui respecte aussi son environnement.
J'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit François Pursègle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez François Pursègle, je ne le connaissais pas jusqu'alors, sociologue à l'INP INSA de Toulouse. Il a été interrogé par France 3 Occitanie à propos du vote des agriculteurs. Et je vous lis ce qu'il a déclaré. La plupart des partis s'adressent finalement à des clientèles, des segments. Les écologistes s'adressent aux agriculteurs bio, les socialistes aux agriculteurs plutôt en circuit court, les républicains plutôt à des formes entrepreneuriales d'agriculture.
Oui,
qu'est-ce que ça vous évoque?
Oui, c'est. Mais on est toujours dans la segmentation, mais je pense que c'est normal qu'un sociologue il essaye de construire une logique. C'est pas si simple que ça, je pense. C'est pas si simple que ça. Il y a des bio qui sont très radicalisés à l'extrême droite et il y a des bio qui sont plutôt aussi radicalisés à l'extrême gauche. Enfin, il faut pas. Voilà. Bon.
Et donc ensuite il dit on a un Rassemblement National qui cherche à capter l'ensemble de ces segments.
Logique, si on veut gouverner pour tout le monde, on essaye de satisfaire tout le monde. Sauf que ils ont démontré que sur la bio ils n'étaient pas à la hauteur, ils n'ont pas du tout soutenu. Sur le foncier c'est pareil, quand on a eu des lois où on a voulu faire des lois au partage du foncier, donc ils n'étaient pas présents. Enfin donc.
On va parler un peu de l'actualité qui nous concerne, nous, dans le Maine-et-Loire. Le 8 juin, les soulèvements de la terre avec la Confédération paysanne du Maine-et-Loire. Vous êtes rendus et mobilisés contre le projet Océane 3. Océane 3, c'est le développement de la zone industrielle Océane, pas loin de Rives-sur-Loire et Verrières-sur-Anjou. Vous avez fait toute une manifestation à vélo et vous avez déambulé dans ces espaces protégés qui sont censés devenir une zone industrielle. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par les pouvoirs publics à l'occasion de ces manifestations ?
Faut savoir que cette manifestation-là, elle avait été interdite déjà, sous prétexte qu'elle rassemblait plus que 100, elle risquait de rassembler plus de 100 vélos, qu'il fallait qu'elle soit autorisée, patati, patata. Bon, effectivement, pour des raisons de sécurité routière, on comprend. Bon. Voilà, mais de là à interdire une manifestation, bon, on voit bien qu'on est toujours dans le déni. Voilà. Donc, je pense que le focus qui a été donné, il était intéressant quand même. Enfin, je pense que la plupart des Angevins, des gens de la périphérie angevine, ne savaient pas qu'on allait encore agrandir cette zone océane. Alors qu'il y a des dents creuses dans la ville d'Angers ou très proche de la périphérie d'Angers qui sont aujourd'hui bourrés d'amiante ou bourrés d'anciennes usines qui sont désaffectées et qui représentent des grandes surfaces. Donc ce qu'il faut, c'est que les élus se ressaisissent et étudient déjà comment on reconvertit des zones comme celle-là avant d'aller reprendre encore, aller rebétonner des zones naturelles.
Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de ces mobilisations si le Rassemblement National arrivait au pouvoir ?
Ouais, je pense que de toute façon, le Rassemblement National, s'il est au pouvoir, il sera obligé d'entendre les forces en présence, les syndicats. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un parti comme celui-là, si tant est que ce soit le Rassemblement National, que les choses vont s'arrêter. Au contraire, peut-être que les gens vont plus se mobiliser, être plus conscientisés. Donc là, non, je pense que on n'est pas. Ça va pas être des grosses interdictions. Enfin, je les mets quand même un petit peu en garde là-dessus.
Et si jamais c'était le Front Populaire ?
Si c'est le Front Populaire, je pense qu'on sera un peu plus écoutés, sans doute. Ouais. Oui, parce que faut reconnaître que la plupart de nos propositions, elles filtrent dans leurs propositions elles aussi. Ouais.
Mais écoutez, merci beaucoup Alain Guifès d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Vous êtes co-porte-parole de la Confédération paysanne du Maine-et-Loire. Merci beaucoup d'avoir été dans nos studios. Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain avec l'association Up Up and Away pour parler de l'avenir des musiques expérimentales. À très bientôt sur le 103 FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.